Pas d'affolement. Nous voilà.
Bonjour, nous sommes sur Radio Entre-deux-Mers dans l'émission Pas d'affolement, nous voilà sur 98.4, 66e émission.
Nous sommes en présence de Valérie, Jean-Louis, Philippe, Joseph, Béatrice, Nathalie, Francis à la technique, Marine et moi-même aussi.
On participait à l'émission Sylviane, Josiane, Pierre, Laurent, Guylain, Azédine, Michael, Stan, Sylvie, Christelle, et nous faisons un petit coucou à notre amie Brigitte.
Aujourd'hui, nous vous présentons notre invitée, Christine Damiette. Bonjour Christine, on peut vous appeler Christine ?
Vous pouvez, bonjour à tous.
Alors d'abord, j'ai un petit coucou de la part de vos ex-collègues du CATPTP qui vous envoient un bonjour.
Je les remercie, je suis très honorée d'être parmi vous.
Voilà. Et ma première question coule de sens. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
Alors, un parcours professionnel très varié, très riche, multiple, avec des dimensions dans plein de domaines différents. Voilà, je vais vous mettre l'eau à la bouche.
Vous avez fait toujours ça ou vous avez fait quelque chose avant ?
Alors, j'ai eu au moins deux professions. Ma première profession, c'était artisan-commerçant, où je travaillais, où j'avais monté un centre de remise en forme et je travaillais avec conseiller en nutrition pour pouvoir aider les personnes à garder une santé équilibrée. Et ma deuxième profession, infirmière.
Très bien. Ossine.
À quel âge avez-vous commencé ? La tenue tant d'infirmière.
Votre travail d'infirmière.
Voilà. Quand est-ce que j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière ?
Ouais.
Eh bien, j'ai commencé à 39 ans à travailler en tant qu'infirmière. Donc, c'était une reconversion professionnelle.
D'accord.
Combien d'années d'études faut-il pour être infirmière ?
Il faut 3 ans. C'est un travail sur 3 ans, du moins du temps où moi j'ai étudié, parce que les études se sont remaniées depuis. Et donc maintenant, il faut une licence.
Et qu'est-ce qui vous a guidé pour une carrière dans la santé, en fait ?
C'est un long parcours, parce que dans ma première période de vie d'activité, j'étais déjà en lien avec la santé, mais plutôt avec les médecines douces. Et donc, quand j'ai envisagé une reconversion professionnelle, j'ai remonté mes manches parce que je n'avais qu'un CAP d'esthétique. Et pour être infirmière, il faut avoir le bac. Donc, j'ai commencé par passer le bac. Ensuite, j'ai passé le concours. Ensuite, je suis rentrée à l'école d'infirmière. Et ensuite, j'ai obtenu mon diplôme donc en 1995.
Oui, ça fait un moment.
Oui, c'est pas d'hier.
Comment
êtes-vous venu diriger vers la santé mentale ?
Alors, là aussi, c'est un parcours complexe, parce que j'ai commencé à travailler en unité de gériatrie chez les personnes âgées, parce que je me destinais à travailler en tant qu'infirmière libérale. J'étais avec un état d'esprit où j'avais besoin de travailler. En fait, pour tout vous dire, la hiérarchie me pesait beaucoup.
Ah oui, d'accord.
Et donc, de ce fait, j'ai donné ma démission en maison de retraite. Et j'ai, puisqu'il fallait 3 ans pour pouvoir être infirmière libérale, il fallait que je poursuive. Je n'avais travaillé qu'un an en tant qu'infirmière. Donc j'ai postulé à plein d'endroits. Et là où s'est ouvert le premier poste, c'était au centre hospitalier de Cadillac. Et donc j'ai commencé là. Et j'ai poursuivi mon travail là-bas.
Jean-Louis.
Avez-vous fait un parcours de formation spécifique à chacun de vos ateliers ?
Oui, des ateliers multiples et variés, puisque j'ai travaillé en ergothérapie dans le cadre d'infirmières esthéticiennes de l'hôpital de Cadillac pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai travaillé en CATTP, dans maints endroits, en fait, où effectivement, j'ai suivi des formations variées, multiples.
Et maintenant, je passe la parole à Philippe.
Ben oui, nous allons écouter un témoignage d'Antoine, Michael, Mehdi et Stéphane qui ont participé au projet Street Harp de l'unité d'atelier thérapeutique au centre hospitalier de Cadillac. Nous allons l'écouter.
C'est le projet que j'ai réalisé avec mon pote qui graffitait sur les murs blindés de son prostitué. Non mais je n'écoute pas ce son carrément trop couillon avec des ballons au fond et des passerons à trafic à la base.
Bon ben on était 4 patients de l'hôpital psychiatrique de Cadillac, un professionnel du graphe de la peinture sur les murs est venu. Il s'appelle Philippe.
Ouais.
Et son très à l'écoute. Son nom d'artiste est Poulet. Monsieur Poulet. En fait, il nous a initié au graphe pour certains, d'autres connaissaient. Ensuite, il nous a écouté, il nous a fait découvrir des choses, genre, par exemple la musique. Des sons de musique, des marques d'habits, entre autres. Quoi.
Et vous, Mehdi, vous connaissiez déjà le graphe ?
Ouais, moi je connaissais le graphe. J'étais spécialisé, même si j'en faisais pas, c'était des magazines.
Ouais.
Le silver ou le chrome, c'est la même chose. C'est des couleurs blanches sur un mur, entourées sur les rebords de noir.
D'accord.
Moi j'étais à fond là-dedans, j'ai fait que un ou deux graffitis dans ma vie. J'avais pas de blaze. Donc je trouvais pas de blaze. Donc,
est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'un blaze ?
Un blaze, c'est un surnom, version anglaise, française ou anglo-saxon. Voilà, parce que comme ça permet de trouver un surnom comme les rappeurs ou certains boxeurs. C'est pas du vandalisme, voire des murs qui sont vandalisés ou etc. C'est un travail quoi. On trouve des murs. On demande si possible au propriétaire s'il peut nous laisser le mur ou faire un improviste pour le travailler dessus.
Et là, à l'hôpital, quand vous avez fait le graphe, est-ce que vous avez préparé votre mur avant de le faire, le graphe ?
Avant de préparer le mur, on a peint en blanc pour que les couleurs ressortent dessus et pour que les imperfections du mur disparaissent.
Et ensuite, vous avez choisi comment les motifs
Les couleurs et les motifs ont été décidés avec le professionnel qui nous a aidés aussi. Voilà, c'est des couleurs qui sont très fortes au niveau de la couleur. Ça a été quelque chose une expérience très bonne pour ma part, ainsi que mes camarades.
Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît dire réelle.
C'est le côté obscur de la force.
Sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main.
Sachez que c'est certains tags au bord des routes ou des autoroutes, voire des murs, à prendre des risques, quitte à prendre des risques par rapport à l'interdiction première, puis aux voitures qui peuvent passer par les secteurs où on part. Voilà, c'est un jeu, c'est un peu...
Vous savez pourquoi les graffeurs, justement, ils prennent ce risque?
Ils prennent ce risque parce que c'est une passion, c'est un hobby, c'est un hobby, une passion, une espèce de... comment dirais-je ça? Une espèce de...
courage?
Du courage, de la testostérone, voire de la... de vaincre la peur, quoi. Voilà. Certains font du ski, snowboard, skate. Les gens qui graffent, c'est une autre demande, une autre chose qu'ils recherchent. Je vous passe monsieur Poulet. Parle-nous de ce que tu fais, combien d'années ça fait que tu graffes, si tu as eu des problèmes envers les gens.
Alors moi j'ai commencé le graffiti en 1993, donc tu vois ça fait un petit moment. Et au début c'était pas très bien accepté par la société. Donc je peignais dans des endroits, dans des friches, tu vois, des endroits où je vais pas être embêté. Au blocos, ouais, sur la plage, on peut peindre sur les blocos. Et après, ouais, j'ai eu des petits problèmes. Comme tout le monde, voilà, je me suis fait serrer deux fois coup sur coup, j'ai dû payer une amende, ça m'a un peu calmé, voilà.
Moi, je pense que le jeu, c'est l'adrénaline, non? C'est cette montée de
ouais,
danger.
Ouais, mais en fait, c'est un truc, c'est une drogue, l'adrénaline. Tu peux pas t'en... Une fois que tu as goûté, tu vois, t'as envie de recommencer, en fait. Mais il n'y a pas que l'adrénaline, tu vois, il y a plein d'autres trucs, tu vois, il y a... le fait de faire un dessin que tu es satisfait, trouver le bon emplacement, la jolie photo. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que l'adrénaline, mais c'est vrai que ça compte l'adrénaline, ouais, c'est vrai. C'est plus le même deal pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, il n'y a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés. Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills.
Quand j'étais graffeur, j'avais 10 ans, j'avais un place et je ne disais pas parce que c'est la police. Quand j'étais jeune, je travaillais, je taguais, j'ai travaillé beaucoup, j'avais un place, j'ai fait un métier comme ça, à des petits, je leur faisais faire des tags et j'étais parti.
Alors les gars, c'est la journée graph et on apprend plein de trucs, c'est de la balle. En plus, on est avec Monsieur Poulet, ben lui c'est un boss ma parole. Il sait tout faire. Alors moi j'adore ça, ça me rend dynamique. Mes collègues aussi apparemment, ça crie, ça danse. Il y a l'ambiance, les gars. Non, mais c'était le but, c'est de parler graffiti. Comme je vous dis, Philippe, moi, je l'aime bien. C'est super, quoi. Super. Bon, ce temps nous a permis de faire des prénoms avec un poulet. Le Blaze, on nous a appris à taguer. Moi, j'ai peint à la bombe, j'ai fait les nuages, Midi aussi. Parce qu'au début, c'était, on fait un rap et Christelle a décidé de dire « Est-ce que ça vous plairait de voir des graphes ?» Et nous, on a dit « Oui ». Excusez-moi. Yeah. Sylvie aussi. Et c'est... voilà quoi, hein. Nous on aime ça, autrement... Moi si je remets pas ça, je serais pas venu. Parce que ça m'intéresse, ça, tous mes copains intéressent le graphe. Je les montre à tout le monde, ils ont dit « Mon Dieu, qu'il est beau ce graphe. »
Ouais gros, la claquette, c'est toi la tombée. Je suis pas tombé mais je me laisse rater, je me prends pour me racler. Mon frère il a DVS de cité de ville. Avec un estomac, ma vraie desserrée de mysticisme. Alton en a des fois, dans la foi, on a des bourlagues. Peut-être sur des bourres, soit des bourres, bourre, mon cité, sur mon amatis, c'est mon baricole. Mon frère il me sondait, il a mis de la mission, très caché, prendre des distés, voilà paraissait.
Y'en a qui fument, y'en a qui boivent, moi j'aime pas tout ça, toi la fume pousse jusqu'au troisième ciel. Je vois le ciel se dégrader, pas partout pour dire que ça c'est d'être dégagé. Soudain, je m'explose sur un Bluetooth, super Bluetooth, je dégomme sec à sec, les pneus glissent sur le tremplin a explosé. Il faut prier pour dire si neveu, pas de vœux, mon neveu, et si à toi Michael.
Bref, gratos, si tu veux rentrer ton le béco, on le suffit. Filet, on est dans les prises. On met la prise, on gâche la prise. On prend l'électricité, si tu veux pas entendre, tu montes la prise. Carré, ça c'est tes voitures. Mercedes, cabriolet, moi la voiture. Mercedes, et la ceinture. Mon frère, mets la dessus, mets la 30 heures, mets la 30 ou 8.
Voilà, vous avez reconnu Stan et Michael, que vous écoutez tous les mois. Et alors, on les remercie. Et alors, moi, je remercierai aussi Jean-Louis pour son texte sur la moto. Allez, Jean-Louis.
Et je vais vous parler du circuit de Saint-Jean-d'Angély. Mais pour commencer, je vais rendre hommage à Valentino Rossi, qui a décidé de quitter les Grands Prix. Il prend sa retraite après une carrière bien remplie. Et maintenant, je vais vous parler du circuit de motocross de Saint-Jean-d'Angély. C'est un circuit qui se situe en Charente-Maritime. Les aménagements sont faits en 1999 et la première course en 2000. Il est réservé aux quads, motos de cross et sidecars. En 2011, le circuit organise le motocross des nations. C'est une course par équipe composée chacune de 3 coureurs dans leurs catégories différentes. L'équipe gagnante est celle qui marque le plus de points. Je suis allé à ce circuit avec des copains commissaires de course. J'ai eu un peu peur pour l'un d'entre eux car il a failli se prendre une moto. Le samedi soir, il y a une grande fête et certains amènent des moteurs sans échappement. Ça fait beaucoup de bruit, c'est rigolo. En 1999, championnat du monde 250, David Villemain. En 2008, championnat du monde MX1, Sébastien Pourcel. Et en 2010, championnat du monde MX2, Narvin Musquin. Et maintenant, je passe la parole à Oussine.
Ouais, je donne le résultat de rugby, tournée d'automne. Deux matchs, féminine et masculine. La France a battu Nouvelle-Zélande 39-7. L'équipe homme, la France a battu Nouvelle-Zélande 40-25. C'est pas vraiment un exploit, mais parce que les Hollandais ont battu la Nouvelle-Zélande.
C'est tout à ton honneur, ça aussi, de reconnaître que la France, bon, d'accord, ils ont gagné, ils ont battu les Blacks, mais les Irlandais les avaient battus effectivement 8 jours avant aussi. Alors la France se devait quand même de les gagner.
Ouais.
Bon, ça a été quand même un joli match.
Un très beau match, ils ont fait sortir les filles. Ils ont très bien joué. L'arbitre était comme ça. Rien à dire. Il a très bien joué. Il a fait ce qu'il fallait faire et tout.
D'accord. Le contrat, le job a été fait. Le boulot a été fait. Je crois que tu vas nous annoncer une petite chanson maintenant, Ossine.
Non, je crois qu'il y a ma chronique avant.
Ah, il y a une chronique. Ah, bon. Ma chronique. Pas de politique.
Mensuelle. Ma chronique sportive de l'année 1985.
Pas de politique. Hein.
Non, il y a de l'actualité et du sport.
Ma chronique, attention.
Hein. Ouais. Non. Ouais, c'était très bonne.
On dit que l'esprit fait.
Oui, d'accord. Ben, c'est côté actualité. En cette année 1985, nous avions la démission de Michel Rocard du gouvernement. Ouverture du Resto du Cœur de Coluche et le décès de l'actrice Simone Signoret. Côté sportif, sport automobile, Alain Prost est sacré champion du monde de Formule 1. En football, drame au Heysel dans la finale de la Coupe d'Europe, 38 personnes sont tuées par l'effondrement d'un gradin. En cyclisme, Bernard Hinault réalise le doublé Giro Tour de France. En judo, le japonais Yamashita se retire des tatamis à 28 ans en restant invaincu. En boxe, Michael Pinks devient champion du monde des poids lourds alors qu'il est lui-même que mi-lourd. Enfin, cette année voit la naissance du cycliste Christopher Froome. Voilà.
Et maintenant, je vous parle. Non, j'ai choisi pour vous un morceau de Brassens, Les copains d'abord.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Et voilà la belle chanson de Georges Brassens. Nous sommes de retour au studio pour l'émission Pas d'affolement, nous voilà, 98.4, en compagnie de Christine Damiette, infirmière. Et alors Christine, on a des questions encore à vous poser. Et au niveau de votre métier, quelle était votre spécialité ?
Bon, quelle était ma spécialité ?
Plusieurs.
Il y en avait plusieurs, voilà. J'ai eu la chance de me former dans maints aspects de ma vie professionnelle. Donc, j'avais un diplôme d'État. Donc, ça voulait dire que je pouvais travailler au point de départ dans tous les services, que ce soit en chirurgie, en pneumonie, en pneumo, enfin. Donc, j'ai fait le choix et j'ai eu la chance de travailler au centre hospitalier de Cadillac. Et j'ai eu la chance de suivre beaucoup de formations. Donc, j'ai eu un diplôme universitaire de thérapie cognitive et comportementale. C'est un nom pompeux pour aborder le fait des problématiques de santé où on conduit des thérapies un peu comme les psychologues, en fait. Je développerai si vous en avez envie, parce que c'est un sujet assez complexe. J'ai eu la chance également de me former pour travailler auprès des adolescents en détresse. Et donc, j'ai formé un binôme avec une psychologue pendant de nombreuses années. On a fondé le PEPSI, qui est un point d'écoute et de prévention psychologique sur tout le sud Gironde. Alors l'entre-deux-mers, c'était un très grand territoire en fait, tout le sud de la Gironde, et donc on détectait les personnes qui étaient en souffrance, en état de précarité entre 16 et 25 ans, et on les amenait à pouvoir prendre soin d'elles et réussir à trouver déjà un état de santé meilleur et surtout s'insérer dans la vie et après dans la vie professionnelle, pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu d'autres formations. Bon, donc, je vous ai dit tout à l'heure, infirmière esthéticienne, mais ça, j'étais esthéticienne avant. Donc, j'ai eu la chance aussi de pouvoir professer dans ce domaine-là. J'ai aussi suivi des formations de cellules d'urgence médico-psychologique. C'est pour être aux côtés d'autres professionnels quand il se passe des événements très tragiques comme des déraillements de train, des tremblements de terre, des cyclones. Chez nous, dans les forêts, on a des problèmes aussi d'orage, etc. Donc, pour débriefer, aider les personnes à trouver de nouveau leur paix, leur calme, et aller bien.
D'accord. Ossine.
Comment avez-vous fait le lien entre anxiétique et santé morale ?
Mentale.
Le lien entre esthétique et santé mentale, c'est ça, hein ? Voilà. Ouais. Alors, par chance, dans de nombreux hôpitaux, il y a un poste d'infirmière esthéticienne ou socio-esthéticienne dans le but de travailler par le toucher auprès de personnes qui sont orientées par les médecins dans les services, les médecins psychiatres, afin de travailler l'estime de soi, de la réparation identitaire, les capacités de pouvoir reprendre soin soi-même de soi quant à son intégrité physique et psychique. Mmh. Voilà. Et donc les soins esthétiques étaient dans cet objectif de soins, de pouvoir se réapproprier qui l'on est et de prendre soin de sa santé dans tous les domaines.
Bien. Et Joseph, qu'est-ce qu'il veut ?
Selon vous, est-ce que l'esthétique a un impact important sur la santé mentale ?
Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que ça, ça a ouais, un impact pense, qu'est-ce que vous m'en dites de ça?
Franchement, oui. Je pense que, voilà. Que ça se trouvait bien, c'est, ouais. ça donne de la confiance.
Voilà. Ça apporte le fait de pouvoir avoir sa propre valeur, de pouvoir s'accepter avec ses différences, avec ses avantages et ses inconvénients, parce que bon, selon toutes les étapes de la vie, on se rend compte qu'on traverse toutes sortes d'épreuves. Et quand on est un peu mieux à l'intérieur de soi et quand on a une image qui est en accord avec qui l'on est, on traverse la vie de manière un peu plus harmonieuse.
Ouais. Moi, merci. J'aurais juste une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de les voir comme ça, avoir une émission de radio?
Je suis ravie. Je suis super honorée d'être parmi vous.
Nous aussi.
Et puis que vous puissiez avoir pensé à moi, enfin, à cette activité que j'ai conduite pendant de telles années. C'est vraiment très chouette, cette nouvelle rencontre.
Justement, j'ai une question. Alors, moi, j'y vais, c'est au CRTTP de Langon. Et quel atelier avez-vous proposé au CRTTP de Langon?
Au CATTP de Langon, on propose, on travaille en équipe, on oui, est à trois et on travaille sur au moins trois dimensions, la médiation corporelle, la médiation de socialisation, vous me poserez des questions après si vous trouvez que je ne suis pas très claire, et la médiation de la communication, j'en oublie hein, bien sûr parce que c'est très très divers. Donc il y avait des ateliers dans le but de se parler, de connaître sa santé, sa maladie, savoir comment prendre ou reprendre soin de soi. Il y avait des activités thérapeutiques qu'il y a toujours, hein, j'imagine,
oui,
dans le but d'aller vers l'extérieur, de nouveau s'ouvrir à aller faire des visites, des balades.
Avec le Covid, c'est un peu...
Ça s'est freiné.
Un peu freiné, oui.
Voilà, enfin, bon, ça s'est neutralisé
arrêté,
un petit peu.
Ouais. Oui. Ouais. Bon, enfin, bon.
Et toutes les médiations corporelles, donc beaucoup d'ateliers de relaxation, de détente... de gymnastique douce, même, on avait, voilà.
Très bien. Justement, Jocelyne, question.
Qu'est-ce que vous motivez à animer l'atelier relaxation?
Qu'est-ce qui m'a animé pour,
relaxation.
Voilà, pour animer un atelier de relaxation? La relaxation, c'est un sujet très, très, très important dans la santé mentale, parce que toute personne qui a une santé qui est non équilibré, on va dire, ressent de l'anxiété. Donc c'est un premier
pas.
Élément, ouais, oui. un premier handicap oui. qu'on ressent tous, et même quand on est en très bonne santé, on est souvent anxieux, voire angoissé. Et donc faire les différences entre l'anxiété et l'angoisse. Et donc ces ateliers de relaxation étaient... proposé par les médecins, c'était sur prescription médicale, ça l'est toujours, hein, je pense, de manière à pouvoir apprendre à respirer, amener de la paix dans son esprit avec toute une méthodologie, puisque ce que j'avais appris, je le transmettais. Et le but, c'était de faire en sorte justement que les personnes s'approprient. C'est le training autogène de Schulz. C'est une méthode qui se fait par séance au fil du temps, de manière à pouvoir apprendre. Alors, nous, les soignants, à enseigner cela et les personnes qui en bénéficient, apprendre à le faire chez elles et ne plus être dépendant de quelqu'un d'autre de l'extérieur pour pouvoir elles-mêmes se relaxer chez elles. Au bout d'un certain temps, hein, bien sûr, hein, ça venait pas tout de suite. Hein, il fallait un peu de séance quand même.
Joseph va vous en parler.
Comment se passe un atelier de relaxation?
Ah, vous m'amenez sur le terrain, justement. Alors,
nous ne nous endormez pas.
Très bien, très bien. Très bonne question, très bonne question. Donc, la première étape, c'était la prescription médicale. Voilà. La seconde étape, c'était un entretien entre les personnes qui étaient orientées et l'équipe. Du temps où je travaillais, on animait ça en binôme. Et donc, de ce fait, on permettait à la personne de pouvoir s'exprimer sur ce qui se passait pour elle, ce qu'elle recherchait, sa motivation aussi, parce que c'était sur entre 6 mois et 1 an de séance à raison d'une fois par semaine, des séances de 2 heures. Et donc chaque séance commençait par un atelier où on se retrouvait et où on se parlait les uns les autres, d'une manière un peu dirigée bien sûr, hein, pour pouvoir dire comment on allait ce jour-là, ce que l'on avait pu réussir à travailler de la séance d'avant, ce qui nous avait freiné aussi, ce qui avait freiné les personnes qui participaient. Ça durait une vingtaine de minutes. Et ensuite, on entrait dans une grande salle qui est au centre de jour, que vous connaissez, à Cadillac, oui, sur lequel donc, nous entrions dans la phase de la pratique. Donc nous transmettions nos capacités pour enseigner. Les personnes pratiquaient avec des phases différentes, chacun son rythme, hein, parce que personne n'est égal à quelqu'un d'autre. La séance durait entre 30 et 40 minutes, le temps de s'installer confortablement, de créer une ambiance de décontraction, de créer un fond musical. Ensuite, quand la séance s'arrêtait, nous prenions le temps pour revenir dans la première salle où, de nouveau, une verbalisation permettait de pouvoir dire ce qui avait été vécu, ce qui avait été difficile à vivre, ce qui avait pu se produire dans les sensations corporelles, puisque le training autogène de Schulz, c'est une méthode où on travaille sur la chaleur, sur les ressentis de lourdeur, sur la visualisation créatrice, sur les sensations de douleur qui s'effacent au fur et à mesure également. Et donc, de ce fait, la séance se terminait sur ce que les personnes envisager de réussir à pratiquer, à faire comme exercice en attendant la séance de la semaine suivante. Et donc ça se déroulait sur plusieurs mois jusqu'à temps que l'appropriation de la méthode de relaxation soit faite par les personnes qui pratiquaient et réussissent ensuite à se passer de nous et aller bien.
On va vous couper parce qu'on... Non, on ne vous coupe pas. C'est une question personnelle. C'est quel bienfait ça apporte ? C'est pour le sommeil et...
Alors, c'est effectivement pour les troubles du sommeil, l'anxiété, l'estime de soi, oui, les douleurs physiques et les douleurs morales.
D'accord.
Toutes sortes de problématiques liées au fait que les personnes parfois sont dépendantes de certains traitements et ont besoin d'un traitement pour se détendre. Et les médecins, et nous les infirmiers, tellement d'autres aussi soignants, on tente d'apporter des capacités à chacun qui a envie et besoin de se soigner pour ne pas trop dépendre du traitement, parce que le traitement est indispensable. Et en même temps, il a aussi parfois des effets secondaires, surtout si on abuse.
D'accord. Une dernière question de Joseph. Non, oui, Joseph, vite.
Pendant combien de temps avez-vous animé des ateliers de relaxation ?
De nombreuses années. J'ai commencé en 2000. Je pratiquais déjà la relaxation dans ma première période de vie. Alors, soit en individuel, soit en groupal.
Voilà, merci. Joseph, maintenant, qui va nous parler de Captieux. Merci, Yves-Christine.
Voilà. Valérie m'a interviewé au sujet de la vie de Captieux. Je vous propose d'écouter cet enregistrement.
Bonjour, je suis Valérie, je suis en présence de Joseph qui va nous parler de sa ville, Captieux. Joseph, quand a commencé votre envie d'habiter à Captieux ?
Ben, c'était par hasard parce que j'étais à Valence d'Agen, je travaillais à la centrale nucléaire de Golfech, dans Tarn-et-Garonne. Et comme j'ai appris que ma mère était gravement malade, c'est pour ça que je suis revenu sur Captieux pour être près de ma mère.
Merci beaucoup, ça a dû être très compliqué.
Oui, c'était très compliqué, oui.
Bon, à Captieux, apparemment, il y a plein d'anecdotes sur la base militaire. Pouvez-vous nous en parler ?
Ben, c'est un terrain privé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hectares de pins là-bas. Et c'est là où les Mirages s'entraînent pour utiliser leur avion, quoi.
Et vous avez une petite anecdote, vous êtes retrouvé une fois dans la base militaire.
Oui, j'allais chez ma mère, Et comme par hasard, je me suis retrouvé en plein dans le camp. Et personne ne pouvait me sortir. Ça a été un pompier qui était sur la base qui m'a remontré mon chemin.
Et les bœufs gras, c'est quoi?
Les bœufs gras, c'est des bœufs. C'est une fois par an, c'est la fête des bœufs gras. Et il y a dégustation. Et tous les bœufs sont élevés à l'ESAT de Capsieux, au CAT de Capsieux.
Avez-vous une anecdote à propos du poteau? Et nous expliquer qu'est-ce que le poteau?
Le poteau, c'est l'endroit où sont les avions. Et il y avait des maisons à côté, c'était des prostituées qui y habitaient. Et voilà quoi.
Et ça vient de là, le nom du poteau?
Le poteau, ça vient de l'armée.
Oui. Et un puits d'amour, c'est quoi à Capsieux?
Un puits d'amour, c'est un petit gâteau à déguster. Et je ne sais pas la recette parce qu'ils ne veulent pas nous dire la recette. Mais c'est très bon, quoi. C'est les puits d'amour.
C'est à base de quoi? C'est comment?
C'est à base de...
Est-ce que ça ressemble beaucoup à la... Est-ce que ça ressemble à la pomme d'amour?
Oui. Ça lui ressemble un petit peu, mais c'est pas préparé pareil.
Bon, il y a aussi du rugby.
Oui, il y a du rugby. On a une équipe de rugby qui est bien. Il y a la réserve et la première. Et là, on est tombé vraiment sur des joueurs sympas. Et ils font revivre le rugby à Capsieux, quoi.
Il y a d'autres distractions?
Les distractions, il y a le stade de rugby. Il y a terrain de tennis. Il y a basket, il y a une salle où on peut s'abreuver quand on a soif. C'est le petit bar du club. Et voilà.
À nos amis auditeurs, pour Noël, qu'est-ce que vous leur souhaitez?
Je leur souhaite un joyeux Noël et beaucoup d'émissions encore à venir.
Merci. Pour un entretien avec Joseph, je vous remercie à tous. Au revoir.
Écoutez Joseph qui va vous parler.
Maintenant, nous allons écouter l'enregistrement de Pierre.
Bonjour. Chers auditeurs de Radio Entre-deux-Mers, c'est Pierre et je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit lorsque nous parlons de déplacement du pôle Nord magnétique. Tout d'abord, la différence entre pôle Nord géographique et pôle Nord magnétique est que le pôle Nord géographique est le point le plus au nord de notre planète. Méridien et fuseau horaire s'y croisent. Le pôle nord magnétique est quant à lui un point errant où le champ magnétique pointe vers le bas. L'aiguille d'une boussole indique la direction du pôle nord magnétique. Les aurores boréales suivent les ondulations du champ magnétique dans l'hémisphère nord. Au cours des temps géologiques, le pôle nord magnétique, qui est la résultante des mouvements dans le noyau terrestre, s'est déplacé. Aussi étrange que cela puisse paraître, il s'est parfois logé au niveau du pôle sud géographique. On parle alors d'anomalie ou d'inversion pôle nord-pôle sud. À l'heure actuelle, il est situé à la périphérie du pôle nord géographique. Depuis les années 90, il se dépasse à la vitesse de 55 km par an, alors qu'auparavant, il ne se déplaçait qu'à la vitesse de 10 km par an. Alors qu'il était situé dans le nord-ouest canadien, il s'est déplacé dans le nord de la Sibérie. En fait, ces deux régions agissent comme deux épicentres magnétiques, d'où la raison du déplacement du pôle nord magnétique entre ces deux zones. À l'heure actuelle, on ne sait pas s'il s'agit d'un début d'inversion pôle nord-pôle sud. Et qu'est-ce que cela change pour les scientifiques et les navigateurs? Les cartes géographiques utilisées dans la marine ou par l'organisation du traité Atlantique Nord, OTAN, sont devenues obsolètes et ont dû être refaites prématurément. Aussi, les GPS n'indiquent plus les mêmes points géographiques, ce qui pose un problème important à résoudre pour les navigateurs. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment ce qu'entraînerait une inversion magnétique. Cependant, c'est une anomalie qui s'est renouvelée plusieurs fois sur de longues périodes géologiques. J'ai rédigé cet article en m'aidant de la revue National Geographic d'août 2021 et de la revue de Le Point de mai 2020. J'espère que vous voyez maintenant plus clair s'agissant du déplacement du pôle Nord magnétique. Merci. All the good things you deserve now, and I say, I'm being forever trying. You're gonna find your way out.
Nous avons interviewé Azidine au sujet de la dépendance du portable. Écoutons-le.
Nous allons avoir un petit débat proposé par Azidine sur le fait qu'on est accro au portable. Alors, on va commencer ce débat. Azidine, est-ce que vous-même, vous êtes accro au portable?
Ouais, beaucoup. Hein. Je ne sais pas, j'arrive pas à m'en détacher. Je ne sais pas vous, mais moi, j'arrive pas.
Portable et Internet aussi?
Internet, ouais, aussi. Même si je me mets des musiques dans le téléchargement, mais ça reste... Dès que je le perds, je suis vraiment pas bien. Je me dis, mais il est où? Et c'est après que je retrouve.
Azidine, qu'est-ce qui vous rend si accro au portable? La musique, des recherches?
Plus la musique, les youtubeurs, les blogueurs, ça me plaît beaucoup. Il y a pas mal de youtubeurs que j'aime beaucoup. Et quand je l'ai pas sur moi, je me dis, heureusement que c'est la télé qui a YouTube. Sinon...
Et combien d'heures vous faites par jour environ?
Alors ça dépend, Netflix je peux durer 2-3 heures, YouTube c'est un peu plus, entre 5-6 heures.
Et alors ce portable, dès du matin au soir, dès le matin, dès le lever?
C'est ça, dès le matin, le lever, je regarde les notifications pour voir s'il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos, et dès que je vois qu'ils en ont fait, je clique dedans.
C'est comme la clope et le verre d'alcool alors.
Un peu quand même, ouais. Ouais.
Est-ce que tu aimes des blogueurs en particulier et que tu suis souvent?
Ouais, Bassem. Et d'ailleurs, ma mère, elle a découvert ce que c'était. J'ai pas voulu lui dire, mais elle a su quand même.
Alors, on est accro, mais vous êtes dans votre entourage d'autres personnes qui sont accros?
Mes cousins, mon père, non, il regarde de temps en temps, mais il n'est pas aussi accro que ça. Mais mes cousins, ouais.
C'est un truc de jeune, en fin de compte.
C'est ça. Et même mon cousin, mon petit cousin, qui est né en 2006, qu'il a...
15 ans.
Il est lui-même notre portable. Voilà. Il regarde pendant 3 ou 4 heures le portable comme moi, en fait. Le portable, c'est devenu un truc qu'on ne peut pas s'en passer sans. Si on n'a pas... Moi-même, le premier, je commence à stresser. Il est où?
Tu peux pas te passer... Tu peux pas t'en passer ton portable, alors?
Non. As-tu un blog?
Non, mais j'ai une chaîne YouTube et j'ai un Facebook. Mais j'y vais pas tout le temps, de temps en temps. Même mes vidéos, j'y vais pas tout le temps. D'ailleurs, c'est pas mes vidéos, c'est des vidéos que j'ai envie de télécharger, que j'ai remis parce que ma mère veut pas que je mette ma tête.
Et alors, est-ce que ça apporte des bienfaits, le portable?
Pour moi, ouais, je me sens bien quand je l'ai, mais quand je l'ai pas, c'est là où c'est un peu compliqué. Des fois, une fois, je l'ai perdu à Céglas, le portable, j'étais pas bien du tout, je me suis dit, ça y est, on va me le voler. Alors que non, on me l'a retrouvé. Des fois, j'oubliais mon cartable, il y avait mon portable dedans. Depuis, je le mets que dans ma poche.
En fin de journée, t'es pas trop fatigué?
Non, parce que je dors de 21h à 22h, je me lève à 10h.
Ça fait dormir le portable alors?
Ouais.
Voilà, c'était un petit débat autour de la passion d'Azedine sur le portable et le fait qu'on est accro.
Et nous, est-ce qu'on est accro?
Pas au portable, moi. Est-ce que vous êtes accro au portable?
Si j'ai pas mon portable, je suis perdue.
Josiane?
Non, je ne sais pas servir de mon portable.
Viviane? Oui, moi, si j'ai pas mon portable, ça me manque.
Joseph? J'ai pas de portable.
Aussi. J'ai pas de portable.
Voilà. C'est le mot de la fin. Voilà, maintenant, on va bien rire. On va passer à un autre sujet avec, comme tous les mois, les blagues de Guy, là.
Préparez-vous pour une bonne barre de rire. Êtes-vous prêts?
Ouais.
Quel est le comble pour un cycliste? C'est de faire un régime sans sel. Quel est le comble pour un avion? C'est d'avoir un antivol. Qu'est-ce qui est orange et qui court? Une orange pressée. Quelle est la devise des chats diaboliques? Eh bien, c'est Satan est parmi nous.
Ouais!
Deux poules discutent. Comment vas-tu, ma cocotte? Pas très bien, je crois que je couve quelque chose. Quels sont les deux animaux les plus intelligents? Ce sont le cerf et le veau. Comment fait-on aboyer un chat? On lui donne une soucoupe et il l'aboie. Un fermier célibataire a un troupeau de 1000 vaches, mais un seul taureau. Un visiteur s'exclame en les voyant. « Qu'est-ce que vous avez un grand troupeau? Vous devez être bien heureux. »« Oui, répond mollement le fermier, mais pas autant que le taureau. » »«
Ouais !»
Deux lions discutent. « Allez, avoue que tu es amoureux, » dit l'un. L'autre répond. « Arrête, tu vas me faire rugir. » Une dame se penche du haut de la tour Eiffel et demande aux gardes de sécurité. « Les gens se jettent-ils souvent d'en haut ?» Le garde de la sécurité répond. « Oh non, madame, une seule fois. »
« Ouais !»«
Préparez-vous pour une bonne barre de rire. Êtes-vous prêts ?»«
Ouais !»
Joseph.
La chanson que vous allez écouter, c'est le pouvoir d'achat de la chanson du dimanche proposée par Guilin.
Si j'avais le pouvoir d'achat, ah, j'achèterais plein d'objets sans fil, ah, j'achèterais un écran plat, ah, serait plus facile. Ah, je t'achèterai un stylo, je t'achèterai un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté. En plastique, ah, j'achèterai une tente Quechua, ah, aujourd'hui on ne sait jamais, ah, je t'offrirai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais, peut-être même que je pourrais payer l'hospice de bébé. Donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi les supermarchés, les super pouvoirs de pouvoir marcher tout en achetant. Et acheter, donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh. Si j'avais le pouvoir d'achat, je m'amènerais à la piscine, puis j'irai chez le podologue, faire soigner ma verrue. Je m'achèterais un barbecue avec un allume-barbecue. Je m'achèterais un Rottweiler pour protéger mon barbecue.
Excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 €. 400 €, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, toujours un peu plus. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Voilà, très belle chanson. Et ben, nous allons recommencer avec une interview sur les vacances de la belle Sylviane au Pays Basque. Je l'ai interviewée, on va écouter son interview.
Je suis avec Sylviane qui va nous parler de ses vacances au Pays Basque avec le jeune de Langon.
Siviam, combien de temps a duré ces vacances?
Alors, nous sommes partis une semaine avec le jeune de Langon à Saint-Jean-de-Luz. Là où il y a le camping Aéromardi, à côté de l'océan. Nous étions 4 dans un mobil-home et 3 dans un mobil-home. Ils avaient des terrasses.
Et alors, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Est-ce que vous avez écouté les chants basques?
Alors, le soir, on a pique-niqué et on a été voir des chants basques dans une église très magnifique.
Et alors, vous avez été, je crois, à la Rune, au petit train de la Rune?
Alors, le lendemain, on a pris le petit train pour monter à la Rune. Nous avons fait le magasin et nous sommes restés manger sur place. Et après, on a repris le petit train pour redescendre.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait en plus? Alors, chez Despelette, là, est-ce que vous l'avez fait? C'est quel jour?
On a fait le marché d'Espelette à la fin de nos vacances. Mais on a été à Saint-Jean-de-Luz, on a fait les magasins, généralement on fait les magasins, et nous avons mangé au restaurant. Et l'après-midi, nous avons bu un café en terrasse.
Vous avez pris des souvenirs là-bas et des trucs?
Alors, surtout ce qu'on a pris, c'est du chocolat, du nougat, des gâteaux, enfin, ce qui nous a fait plaisir.
C'est des vacances gastronomiques, alors?
Ouais, c'est des vacances gastronomiques, mais super, quoi, à refaire. Nous avons été aussi à Biarritz, on a pris aussi le petit train pour faire le tour de la ville. Nous avons mangé au restaurant aussi, et l'après-midi, on a bu un café sur une terrasse, avec le soleil magnifique.
Et alors c'est beau le Pays Basque, c'est vert et blanc, je trouve.
C'est très joli, surtout quand on voit l'océan magnifique, les vagues super et tout. C'est très joli, quoi. Et on a été visiter aussi une usine de piment d'Espelette et une chocolaterie de chocolat. Et nous sommes ressortis avec du piment d'Espelette. Et en plus, nous avons mangé au restaurant aussi.
Mais très bien, Josiane. Alors, ces vacances, c'est prêt à les refaire un jour?
Alors, ouais, j'espère que ça sera à refaire, là, le prochain voyage. Normalement, c'est Disneyland.
Et alors, tout ça avec le GEM de Langon?
Tout ça avec le GEM de Langon, oui.
Des belles sorties. Merci, Sylviane.
De rien. Merci, Philippe.
Comme chaque mois, nous allons écouter Didier, qui nous raconte la recette du far breton.
Chers auditeurs, bonjour. Je vous présente le gâteau du mois. Le gâteau du mois sera le far breton. Il faut 4 personnes. Je vais vous donner les ingrédients. Préparation, 15 minutes. Cuisson, 40 minutes. 250 g de pruneau, 100 g de farine, 80 g de maïzena, une cuillère à café de levure chimique, 150 g de beurre, 4 œufs, 3 quarts de litre de lait, 50 g de beurre, une pincée de sel, un sachet de sucre, vanille, alça. Faites tremper les pruneaux quelques heures. Beurrez largement un moule à gratin avant d'y déposer les pruneaux. Mélangez la farine, la maïzena, la levure, le sucre, le sel, les œufs, puis le lait tiède. Peu à peu, versez la composition obtenue sur les pruneaux. Saupoudrez de petits morceaux de beurre. Faire cuire à four moyen pendant 40 minutes. Saupoudrez de sucre vanillé, consommé, tiède. Merci de votre attention et bon appétit.
Et maintenant, nous allons écouter Guylain nous présenter les fables de La Fontaine, le pot de fer et le pot de terre, ainsi qu'une surprise.
Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu que le moindre chose de son débris serait cause. Il en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, répartis le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade se met droit à ses côtés. Mes gens s'envoient à 3 pieds, clopins clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jeté, au moindre roquet qu'il trouve. Le pot de terre en souffre, il n'eût pas fait 100 pas, que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Nous nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots.
Pas d'affolement. Voilà.
Histoire d'un fabuliste. Depuis un petit moment, je vous délivre et vous fais partager, chères auditrices, chers auditeurs, des fables extraits de l'œuvre de Jean de La Fontaine. Je voudrais vous parler de lui un petit peu, dire qui il était. Né il y a 400 ans, le 8 juillet 1621, Jean de La Fontaine nous a laissé un héritage de près de 250 fables, de poèmes et de livres, que chaque nouvelle génération découvre et apprécie à son tour. En 2021, nous fêtons les 400 ans de Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry en Picardie, le 8 juillet 1621. Ses parents, Charles de La Fontaine, maître des eaux et forêts et capitaine de chasse du duché de Château-Thierry, et Françoise Pidou de la Maduère, possèdent un hôtel particulier. C'est là que Jean de La Fontaine va passer ses premières années. En grandissant, sa passion pour les œuvres antiques ne fera que se renforcer. C'est en 1668 que son premier recueil des fables est sorti, dédié du dauphin Louis de France, qui est âgé de seulement 8 ans. Ce recueil contient 124 fables, dont les fameuses et célèbres Le Lièvre et la Tortue, Le Chêne et le Roseau ou Le Corbeau et le Renard. 10 ans après, en 1678, son second recueil de fables voit le jour. Son dernier livre de fables fut publié en 1693. Jean de La Fontaine décède en 1695, à l'âge de 74 ans. Auteur de fables, de contes, de poèmes, de textes en vers ou en prose, c'est le plus grand fabuliste français de tous les temps. Quelles sont les morales des fables de La Fontaine ? Voici ce que disait Jean de La Fontaine dans la préface de son premier recueil. La fable est composée de deux parties, dont on peut l'appeler l'une le corps et l'autre l'âme. Le corps est la fable, l'âme est la moralité. Les fables racontent une histoire et se terminent par une morale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une morale ? Eh bien, c'est un ensemble de règles à respecter pour avoir un comportement qui est jugé bon par la société. Les morales qui concluent les fins de fables de Jean de La Fontaine sont des petites leçons de vie qui permettent à tous de réfléchir sur les comportements adoptés afin de vivre ensemble. Parmi tant d'autres morales, personnellement, Jean de La Fontaine m'a inculqué la sagesse et la patience, le respect des autres, sans oublier celle tirée du loup et de l'agneau, qui se termine par la raison du plus fort et toujours la meilleure. Elle nous parle d'injustice, de tolérance et d'intolérance. N'oublions surtout pas la morale de la cigale et de la fourmi. Le travail est indispensable à la vie et nécessaire pour assurer son avenir, mais il ne faut pas pour autant laisser les autres dans le besoin. L'entraide est tout aussi nécessaire.
Et maintenant, quelques propositions culturelles. N'oublions pas qu'il y aura le 10 décembre à l'hôpital de Cadillac un marché de Noël. J'invite à écouter la suite. Pour ce mois de décembre, pour le début du mois de décembre, je vous propose quelques actualités de sortie culturelles. Par exemple, à Longon, Vian, Par Debout les Incs, salle de spectacle de Longon, tout public, c'est de la musique, samedi 18 décembre 2021 à 20h30. Association Étincelle Photo, hall du Centre culturel de Longon, exposition photo, tout public, du 4 janvier au 25 février 2022, exposition Artothèque, dans le hall des Carmes de Longon. Vianto, spectacle de flamenco, le vendredi 3 décembre 2021, Centre culturel des Carmes, 8 places des Carmes à Longon. Sieste musicale du 10 décembre 2021 de 13h à 13h30 sur réservation. Centre culturel de Carmes, 8 places des Carmes à Longon. Thème musical. Ensuite, nous avons aussi le marché de Noël à Cadillac qui aura lieu le 12 décembre 2021. Déterki en Cancer, bar La Belle Lurette, 2 places du Général de Gaulle à Saint-Macaire. Repas à partir de 20h. Sur réservation, concert à partir de 22h. Et maintenant, nous passons à la page cinéma du cinéma de luxe de Cadillac. Tous surveillés, 7 milliards de suspects, en salle le 13 décembre 2021, genre documentaire, durée 1h30. Le Noël de Petit Lièvre Brun, durée 43 minutes, tout public dès 3 ans, en salle dès le 15 décembre, genre animation, Les Magnétiques, durée 1h38, en salle dès le 11 décembre, genre drame. Il y a aussi Mystère, en salle dès le 5 décembre, genre aventure, comédie, famille. Puis nous finissons par Tous en scène 2, durée 1h50, en salle dès le 12 décembre, genre animation, famille, comédie musicale.
Aucune musique comprise.
Je vous remercie de votre attention. Bonne fête de fin d'année.
Voilà, l'émission se termine. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous disons au revoir et merci Christine. Alors vraiment merci d'avoir collaboré avec nous, d'être disponible comme ça.
Merci à vous.
Voilà, on avait 1000 questions à vous poser, mais le temps est imparti, voilà.
Avez-vous préparé les fêtes déjà, commencé à décorer ?
Eh bien, oui, avec mes petits-enfants.
Déjà ?
Non, mais nous serons heureuses de vous retrouver sur le podcast de la radio en 98.4, RFM, REM.
Merci à vous, merci vraiment.
C'est très gentil. Ouais.
Merci d'être venu.
Voilà. Pas d'affolement.